Diagonale Strasbourg-Andaille, la route des écureuils, lue par Pauline Tellier. Au commissariat de Strasbourg, vers 3h du matin. Sûr de la supériorité que lui confère l'uniforme, le planton refuse d'apposer sur le carnet de route le sacro-saint tampon qui officialise le début de toute diagonale. À l'entendre et à le voir aussi borné, je renonce à argumenter pour obtenir le précieux sésame. Dans mon fort intérieur, je pense que monsieur le sous-brigadier ne veuille pas compromettre Marianne avec un vulgaire cycliste, après tout, je m'en tamponne. Par chance, Jocelyne, la madone des diagonalistes, sanglée dans son baudrier fluorescent, est descendue sur terre. Parée de son habit de lumière, elle remplace l'icône républicaine et authentifie la date, l'heure et le lieu de mon départ. Pour l'heure, je suis sauvée. Premier jour. Strasbourg, Bas-Rhin, brasé en plaine, Côte d'Or. 320 km, 2660 mètres. Jocelyne m'accompagne jusqu'à Lingolsheim. Tandis que ma bienfaitrice repart vers Strasbourg prendre quelques heures de repos avant d'embaucher, je mets le cap sur Ensheim. Dans la clarté lunaire, je scrute le ciel avec l'espoir que les nuages amassés ne se déverseront pas en orages aussi violents que ceux qui se sont abattus la veille sur Strasbourg. Au lever du jour, peu après Aubernay, les premiers reliefs alsaciens se font sentir sous la pédale. Sans être très perspicace, je devine que la journée sera bosselée. À Triembach-Oval, en bordure de la route, je reconnais la maisonnette où nous avions séjourné alors que nos enfants étaient encore des enfants. Deux décennies ont passé depuis. À cette heure matinale, la route est déserte. Des nappes de brouillard, reliquats des orages de la veille, encombrent par endroits le creux des vallons. Vers Fouchy, les gracieuses cabrioles d'un chevreuil dévalant une pente à l'orée d'un bois m'arrache un instant à la rêverie dans laquelle m'entraîne parfois cette chevauchée solitaire. Au passage du col d'Urbais, 602 mètres, un panneau indique la ligne de partage des eaux entre mer du Nord et Méditerranée. En l'apercevant, je ne peux pas m'empêcher de divaguer. Quelle cause infime détermine le cheminement de la goutte d'eau vers l'une ou l'autre mer? N'est-ce pas le même hasard qui préside à notre destinée? Le souffle d'air à peine plus fort pour la goutte d'eau, l'événement en apparence insignifiant, qui oriente entrement une vie. Au pied du col, tout change. Aux belles maisons à colombages des villages colorés alsaciens succèdent les austères maisons vosgiennes en pierre, avec leurs portes cintrées, parfois ornementées de frontons sculptés en grès rose. La route, d'abord facile entre Provenchères et la Croix-aux-Mines, est parsemée de petits villages où émerge, ci et là, un clocher à bulles. Puis, à partir de Ban-sur-Meurthe, elle monte, sombre et enserrée, entre des parois rocheuses abruptes où s'accrochent des futaies de sapins. Dans l'étroit défilé de la Stréture, la route se fraye un passage volé par endroits au torrent de la Petite Meurthe, qui se précipite parfois avec fracas du haut d'un chaos de rochers moussus. Avant 9h, en guise de petit déjeuner, après l'école d'Urbeis, 601 mètres, et de Mandré, 696 mètres, j'avale le troisième col de la matinée, Sucerneau, 810 mètres, avant de dévaler vers Gérardmer. À l'entrée de la ville, une statue colossale de Gulliver, composée avec des feuilles mortes collées sur une carcasse grillagée, m'oblige à un arrêt. Je me dois, tant le message délivré semble clair, d'immortaliser ma monture devant l'œuvre. L'artiste inspiré l'a intitulée « Les déraillés ». Faut-il voir là un clin d'œil au diagonaliste de passage ? Plus loin, dans le silence de la montée du col de Sapois, 836 mètres, un écureuil, le second de la journée, me sort à nouveau de l'engourdissement mental provoqué par la cadence lente et régulière du pédalage. À peine entrevu, il disparaît bien vite dans la forêt. J'aime ces rencontres fortuites et rares, c'est un des bonheurs de la diagonale. Lors d'un pointage à Vanier, je discute avec des rockeurs dans un bar, le temps d'une bière. En reprenant la route, je n'ai de cesse de retrouver une fiancée rencontrée quelques semaines plus tôt lors d'un séjour breton et cycliste à Rochefort-en-Terre. Mais, à Remiremont, pas de trace de ma dulcinée octogénaire. Hélas, trois fois hélas, l'horloge impitoyable continue de tourner, m'obligeant à mettre fin prématurément à cette idylle. En cycliste obstiné, je choisis de reprendre la route. À la sortie de Remiremont, confrontée à une bosse difficile qui pompe toute mon énergie, j'en viens presque à oublier ces déboires sentimentaux lorrains. Aux alentours de midi, j'achève de me consoler devant une assiette de pâtes à la carbonara dans un restaurant décoré de casseroles, de passoires et de ferblanteries diverses produites au Val d'Ajol. Au-delà de Fougerolles, la route file dans une campagne monotone, jalonnée par de rares villages sans caractère, même avec leurs clochers à impériel. Les longues lignes droites avec des moutonnements sévères paraissent interminables. Dommage, les retrouvailles avec ma Franche-Comté natale ne me laisseront pas, cette fois au moins, un souvenir impérissable. En traversant Vesoul en milieu d'après-midi, je ressens toute l'ironie de la chanson du Grand Jacques. Comment peut-on avoir envie de visiter une ville si terne? Mais, en y réfléchissant un peu, je réalise que personne d'autre que moi n'a écrit Vesoul sur la feuille de route. Cycliste rime parfois avec masochiste. À la sortie de la ville pour rejoindre Andélaro, je dois emprunter une piste cyclable logée dans une sorte de cage en surplomb et bordée de chaque côté par des routes à fort trafic. Pour m'extraire définitivement de Vesoul, qui ne me pardonne pas de ne pas l'aimer, après être sorti de cette cage à cycliste, je dois lutter debout sur les pédales sur une forte rampe où vrombissent des camions. Un moulinage patient finit enfin par m'arracher à cet enfer automobile. Au-delà, les interminables toboggans qui mettent les jambes à rude épreuve recommencent. Vers Granvelle et le Père Renaud, la pluie longtemps menaçante se met à tomber. Elle m'accompagne jusqu'à J, lieu de mon second pointage. La soirée se poursuit dans un paysage monotone où les reliefs finissent par s'estomper lorsque la vallée de la Saône s'annonce vers Auxonne. J'arrive à braser en plaine à la tombée de la nuit. Malgré le confort sommaire de l'hôtel et son restaurant où l'on sert un steak tellement coriace qu'il mérite pleinement sa dénomination de plat de résistance, j'apprécie cette halte pour une très courte nuit de sommeil. Deuxième jour. Brasé en plaine, Côte d'Or, Rochefort-Montagne, Puy de Dôme. 303 km, 2650 mètres. L'étape du jour risque fort d'être éprouvante lorsqu'il faudra, en fin de soirée, vaille que vaille, affronter la forte dénivelée qui m'attend à la sortie de la capitale auvergnate. Aussi, en me couchant, je me suis résolue, inspirée par un slogan mal digéré, à « dormir moins pour pédaler plus ». C'est ainsi qu'à 3h30 du matin, j'enfourche mon vélocipède et traverse bientôt la forêt de Saint-Nicolas-de-Citeaux. L'heure et l'endroit sont propices à une écoute attentive de l'étranger. Albert Camus me conte ainsi jusqu'à l'aube la révolte du condamné à mort Meursault. La voix de l'auteur avec son timbre si particulier ajoute à l'atmosphère de fatalité imprégnant ce roman que j'avais presque oublié. Lorsque l'aube naît, aux alentours de Beaune, l'étranger n'a plus à espérer. Ses heures sont désormais comptées. Après cette escapade littéraire, je poursuis par une promenade entre les clos qui ceinturent les grands crus de Pommard. Je plonge et remonte dans les vagues du vignoble d'Ossé d'Urès, avant d'atteindre les coteaux de la Roche-Peau, dominée par son château, au toit chamarré de motifs en tuiles vernissées. À Nolé, lorsque je pointe mon nez dans le bar de Betty Boop avec l'intention de pointer, la demi-heure d'avance grappillée sur le sommeil a déjà presque fondu. La dame, quinquagénaire fatiguée, n'a plus qu'une lointaine ressemblance avec la collection d'images de la célèbre pin-up qui décore son bar. De couche au creusot, je retrouve des paysages familiers, où quelques années plus tôt j'ai randonné à pied par mont et par vigne. J'aime ces routes qui épousent les rondeurs du paysage en se déliant en courbes harmonieuses, laissant entrevoir à chaque détour un paysage sans cesse renouvelé de prés et de bocages. Dans une combe en contrebas de la route, des charolais entament une course dont l'enjeu m'échappe d'abord. Les bovins courent sensiblement dans la même direction qu'un certain cycliste, finissent par le distancer avant de disparaître dans un bosquet. Un peu vexée d'être ridiculisée par ces bêtes à cornes, j'en viens à me demander si la vache qui rit n'est pas l'instigatrice de ce jeu destiné à se moquer du bœuf à pédale qui ahane sur les reliefs bourguignons. L'envie soudaine d'une côte charolaise d'un autre type pourrait, si c'est fougueux, lisait mes pensées, calmer rapidement les ardeurs des régionaux de l'étape. Après Montsenis, le parcours est très accidenté. Dans les côtes, où je progresse lentement, je déchiffre les noms presque effacés de célébrités cyclistes. J'ai beau lire et relire chaque nom, le mien manque toujours sur le bitume. Voilà le triste destin des obscurs porteurs d'eau. Vers Toulon-sur-Arroux, les reliefs s'adoucissent. La route coule doucement jusqu'à Guignon et Digoin, où je franchis la Loire. D'ordinaire, les bâtiments industriels me laissent assez froid. Mais celui-ci, avec ses imposants stocks de bois, me glace carrément. C'est une usine de cercueils, un peu à l'écart de Molinet. Je ne m'attarde guère et décide de pousser vers un endroit plus accueillant pour réalimenter l'animal pédalant. À l'écart de la route, sur une aire de pique-nique où je me suis arrêtée, un vagabond est installé sur une table voisine. L'homme, obèse et sale, allume son réchaud à gaz et prépare sa tambouille en écoutant la radio. J'hésite à engager la conversation. Plus tard, alors que j'ai repris la route, l'homme me dépasse avec son vieux scooter. Sur le côté de sa pétrolette est arrimé un bagage qui ressemble à une tente. Je regrette un peu tard de ne pas lui avoir parlé. Au donjon Grosse Bourgade aux volets clos, le cafetier est un initié. Il ne compte plus les coups de tampon distribués aux diagonalistes. Au premier coup d'œil, il les distingue des cyclistes ordinaires. Les cyclos au long cours consomment le plus souvent debout et paraissent toujours vouloir repartir avant même d'être arrivés. À l'approche de la Palice, les sapins noircissent la crête des premiers reliefs de la montagne bourbonnaise. La descente rapide dans la ville me laisse un instant entrevoir le château que je devine imposant derrière ses échafaudages. Le vent latéral, plus sensible sur le plateau, finit par engourdir les sens. Il m'arrive parfois, lorsque la vie disparaît du paysage, lorsque les bosses s'atténuent, de rouler longtemps en étant absent. Cette somnolence éveillée me vaut cette fois une erreur d'aiguillage. Elle se solde par une rallonge de 4 ou 5 km et la visite imprévue d'une zone industrielle au nord de Cussé. Après Vichy et Bellerive-sur-Allier, je remonte par une route tranquille, vers Randan. Jusqu'à l'entrée nord de l'agglomération clermontoise, l'œil rivé au compteur et à la feuille de route, je m'efforce de conserver une demi-heure d'avance récupérée tant j'appréhende la traversée de la ville et la montée du col de la Moreno. La semaine précédant mon départ, j'ai étudié à maintes reprises ce passage délicat en site urbain. Cette préparation minutieuse me permet d'arriver sans encombre au cœur de Clermont-Ferrand par les belles pistes cyclables parallèles au tracé de tramway. Mais, dans Roya, je ne parviens pas à trouver la petite départementale bucolique que laissait supposer le trait vert de la carte. Pour accéder au pied du Puy de Dôme, je dois affronter les rampes terribles de la route de Bordeaux encombrée de voitures. Heureusement, l'ascension par cette voie est de courte durée. À un carrefour, j'interpelle pour qu'il me renseigne un cycliste sur le point de redescendre vers Clermont-Ferrand. Gentiment, il rebrousse chemin et me guide sur une route agréable qui rejoint le hameau de Fontana et le rond-point où commence la route du Puy de Dôme. Mon compagnon de route, après avoir imprudemment lâché des considérations inquiétantes sur le profil de la route qui mène au terme de l'étape, tente maintenant de me rassurer. À l'entendre, les 5 km qui restent avant le passage du col ne devraient pas effrayer un gaillard de ma trempe. Avant de nous séparer, alors que le soleil décline, nous posons tour à tour devant le Puy de Dôme pour une photo souvenir. Peu enclin à faire le ramadan, alors que je dois encore augmenter de quelques centaines de mètres le cumul altimétrique journalier, je choisis de méditer quelque temps devant un travers de port aux lentilles. Encore une 30 km avant Rochefort-Montagne. Maintenant rassasié et reposé par cette pause, l'ascension dans la forêt de sapins silencieuse, dans l'air léger du soir, me paraît facile. Le col de la Moreno, 1062 mètres vaincu, je me laisse maintenant griser par la vitesse dans de longues descentes sur la route déserte. Le soleil déclinant magnifie davantage encore le paysage. Je me sens bien. À l'heure dite, j'arrive à Rochefort-Montagne, où un bon lit m'attend. Troisième jour. Rochefort-Montagne, Puy de Dôme, Ville Réale, Tarn-et-Garonne. 279 km, 2785 mètres. Même cause, mêmes effets. La dénivelée promise par Open Runner m'incite à adopter la même attitude que la veille. J'avance le départ d'une 20 minutes. À peine sorti de l'hôtel, déjà, il faut se hisser jusqu'à l'accueil. Mais pour être objectif, toute montée sous ces latitudes auvergnates finit souvent par accoucher d'une descente. Je pourrais sans mentir, en variant sur le thème des montées et des descentes, nous conduire directement à Andaye, mais nous manquerions Carla et ce serait dommage. Je croise la mignonne à l'aube, un peu après Tove. Passer devant elle sans la saluer serait inconvenant, alors je m'arrête et approche. Sans pousser, jusqu'à lui donner l'aubade, j'y vais d'un « t'as de beaux yeux, tu sais », histoire d'engager la conversation. Sensible au compliment, la belle remue la tête, agite gracieusement ses oreilles qui viennent caresser ses cornes. Car Carla, aussi belle qu'elle soit, n'est qu'une chevrette. Son maître, vraisemblablement garagiste, l'a installée ici, en bordure de la route, dans une niche surmontée d'une plaque minéralogique estampillée du prénom de la première dame de France. Depuis, la charmante, avec la chaîne et le collier qu'il lui a offert, traîne sa solitude autour d'un piquet, au beau milieu d'un entrepôt d'épaves. Lorsqu'un peu avant 7 heures, j'arrive à Bord-les-Orgues, par une route en longue descente, je suis frigorifié, les doigts endoloris à la limite de l'onglet. Je peine à me réchauffer dans le seul commerce ouvert, une boulangerie. Après Ide et un café, je chemine un moment en fond de vallée avant d'entreprendre une longue remontée. Durant l'effort, souvent emprisonné entre les versants ou limité par le prochain virage, la vue se réduit à un simple tronçon de route. Mais quand enfin elle débouche sur le court plateau qui précède Mauriac, le regard se libère et l'Auvergne des grands espaces apparaît. Je respire la lumière et m'imprègne des couleurs où dominent toutes les nuances de vert, éclaboussées par les taches jaunes déjeunées. Mauriac. Pour la première fois de la journée, je pointe dans un café où le décor ne paraît pas avoir changé depuis les années 30. Ici, le zinc est en zinc, et c'est le seul endroit où on vend la montagne, parce que d'ailleurs, elle se donne. Je repars bien vite, tellement vite, que devant deux gendarmes, je me surprends à dépasser de très peu les 50 km/h. L'infraction caractérisée, mais pourtant excusable au regard de la très forte déclivité, n'est pas relevée par les Pandores, qui me doublent bientôt en m'ignorant, alors que je peine dans la montée d'Ali. Midi n'a pas encore sonné lorsque j'arrive à Argenta par une très longue descente. Une fois n'est pas coutume, je remercie ma mère de m'avoir fait naître corpulent. C'est un facteur déterminant pour accroître l'énergie cinétique et par là même la vitesse des cyclistes pondéreux. En prévision de nouvelles descentes, je sens qu'il convient de préserver ce précieux capital. Alors je mange, ou plutôt je dévore. Tel un ogre sensible, je me repais au soleil en contemplant les belles maisons de pierre qui se reflètent dans la Dordogne. Le dur métier de diagonaliste m'oblige à digérer en selle. Sur les conseils d'un commerçant, j'opte pour la petite départementale en rive gauche de la vallée. Si la route est tranquille, elle n'est guère confortable. J'ai la sensation de rouler sur une râpe à fromage. Une heure de tape-cul bucolique s'écoule avant Beaulieu-sur-Dordogne. Bien que la ville soit plaisante, je ne m'attarde guère. Un retraité m'indique la route de Quessac-les-Vignes avec un brin d'ironie et de compassion. « Êtes-vous sûr de pouvoir grimper avec votre attirail et par cette chaleur ?» Pour sortir de la vallée, il faut appuyer très fort sur les pédales tant la pente est raide. Mais bien vite, j'oublie la difficulté en m'absorbant dans la vision des jeux d'ombre et de lumière sur cette route en sous-bois. Les rayons du soleil filtrés par le feuillage plus ou moins dense de la forêt de châtaigniers font apparaître sur la chaussée des ombres entrelacées du plus bel effet. Un théâtre d'ombres ondoyantes, où percent les taches lumineuses de la trouée des arbres, s'anime en gris d'intensité et de formes changeantes sous l'effet conjugué de la lumière et du vent. Le spectacle est insolite, l'ambiance irréelle. Je m'arrête un court moment pour profiter de l'instant. Un nouveau plongeon vers la vallée de la Dordogne, suivi d'une côte raide, une chaleur de plus en plus étouffante, voilà qui justifie bien une bière près de la halle de Martel. Au-delà, l'escapade se poursuit en territoire connu. Souillac, la Bruyante, lieu d'un nouveau pointage, la cingle de Montfort avec son château niché sur un éperon dominant une boucle de la Dordogne, Carsac et sa chapelle romane couverte de lauzes. Pour diagonaler, l'aptitude au pédalage n'est pas à négliger, mais ce n'est pas la qualité primordiale requise. Gérer sa condition mentale et physique est autrement essentiel. Le randonneur capable, à la seule lecture de la carte, d'estimer à la fois la distance supportable pour les jambes et l'esprit avant d'atteindre le prochain café ouvert, réussira toujours. Partant de ce constat et de la pépite qui me guette, je décide que Sénac et Saint-Julien sera le lieu de ma prochaine bière. Dans le bar où je fais halte, la charmante brunette de 20 et quelques années, intriguée par la plaque Strasbourg-Andaille, me questionne. « Strasbourg? Depuis quand? Combien de kilomètres par jour? Que gagne-t-on ? » L'absence d'enjeux sportifs, l'itinéraire libre et l'aspect un peu loufoque d'un défi qui consiste à aller au bout du bout semblent lui plaire. Avec les mots de sa génération, elle exprime son adhésion à l'esprit de ses randonnées. « C'est vraiment trop cool, votre histoire. Et puis, je trouve que votre maillot est trop beau. » Habituellement, ce maillot décoré d'une vache amène plutôt des réflexions ironiques, surtout lorsqu'il est vu de dos, là où s'agite la queue de cette laitière suisse aux lourdes mamelles. La demoiselle disparaît un moment, puis revient avec un petit plateau sur lequel elle a déposé un excellent sandwich au jambon. « Mangez un peu, ça vous donnera des forces pour la route. » Je suis sous le charme, mais déjà, je dois repartir. Galvanisé par cette sympathique rencontre, je négocie facilement la longue montée qui conduit au carrefour de la route de Daglan. Il est près de 7 heures lorsque j'arrive à Saint-Pompon. Sur la place du village, des commerçants ambulants finissent de préparer le repas. La quarantaine de kilomètres qui me sépare encore de Ville-Réal m'incite à profiter de ce marché gourmand providentiel. Je mange à côté de deux vieilles Anglaises installées en tête-à-tête. Elles ont sorti une bouteille de vin de leur panier. J'ignore si ces ladies ont d'autres munitions, mais la première bouteille ne tarde pas à être sérieusement entamée. Avant de quitter ce lieu dont le nom sonne comme un air de fête, je fais tamponner mon carnet de route pour un pointage souvenir imprévu. Après tout, Saint-Pompon vaut bien un tampon. Après la chaleur de l'après-midi, le parcours final dans la fraîcheur du soir se négocie sans difficulté. Sur les routes presque désertes, je roule à bonne allure vers Montpazier et ne tarde pas à atteindre Ville-Réal. Quatrième jour. Ville-Réal, Tarn-et-Garonne, Andaille, Pyrénées-Atlantiques. 297 km, 1650 m. Je me lève un peu avant 7 heures. Et la grasse matinée en diagonale est pour moi une première. Tandis que je me prépare, les cloches de Villeréal se mettent à sonner à toute volée. De l'hôtel, j'ai une vue imprenable sur le clocher à peigne où se balancent les cloches sur un fond de campagne baigné par la lumière. Cette musique inaccoutumée et l'atmosphère du lieu me ramènent dans une ambiance évoquant les souvenirs de mon enfance campagnarde. La route, au profil à pelle ondulant, file entre les champs de maïs et de tournesol. Ici, les cultures ne semblent pas trop avoir pâti de la longue période de sécheresse que nous venons de connaître. Je traverse de rares villages, tels celui de Montbahut, où semble ne subsister qu'une activité agricole. À voir le nombre de maisons à vendre ou aux volets clos depuis longtemps, on sent venir l'inexorable mort de ces bourgades, qui ne gardent pour seule trace de leur prospérité passée que les devantures délabrées de commerces depuis longtemps fermées. À Tombeboeuf, je croise l'itinéraire de ma première diagonale Brest-Perpignan, entreprise en équipe en 2007. Je profite de la pause café matinale pour appeler Francis, un autre comparse de l'UCT, qui vient de se lancer pour une première tentative en solitaire sur ce même parcours. Le pari est gagné. Francis, à peine rentré, envisage déjà une nouvelle aventure. J'en conclus que la diagonale est une drogue légale dont les effets euphoriques sont garantis. Plus loin, à l'entrée de Verteuil-d'Agenais, je perçois à nouveau le malaise d'une certaine France des campagnes en déroute. Sur un panneau bancal à l'entrée du bourg, la municipalité proclame, comme par dérision, les mérites de cette cité riche de sa maison de retraite et de son vieux château. Pour peu, on se croirait dans l'album de Lucky Luke dans lequel le panneau de Tortilla Gulch annonce les attraits de la ville, sa prison, son tribunal, son cimetière. Dans le même registre, pour transposer la chanson fétiche du célèbre cow-boy dans une ambiance plus française, je pourrais fredonner « Je ne suis qu'un pauvre cycliste solitaire ». À l'approche de la Garonne, franchie à Tonneins, le vent qui souffle continuellement de sud-est depuis mon départ des bords du Rhin gagne en intensité. Passé Villefranche de Quéran, je réalise un peu tard une erreur de parcours. Finalement, la lecture de la carte est rassurante. En poursuivant par Anzex, je dois pouvoir rejoindre l'itinéraire prévu sans vraiment le rallonger. L'entrée dans la forêt des Landes par cette variante, pour une fois sinueuse et à peine vallonnée jusqu'à Fargues-sur-Ourbise, me vaut de rencontrer le troisième écureuil du périple et de faire chanter les pneus à la manière d'un serpent à sonnette sur une route abondamment gravillonnée. Poussé cette fois par le vent sur une longue ligne droite, j'atteins Wey vers midi. Dans cette bourgade sans vie écrasée de soleil, seule une petite épicerie est encore ouverte. Je serai le dernier client de ce dimanche. Pointage et provisions in extremis, serais-je en train d'acquérir la science de la diagonale ? Je rejoins pour un casse-croûte improvisé les premiers vacanciers de l'été installés sur une aire de pique-nique ombragée. Le menu pour la 60aine de kilomètres suivants est limité. Forêt de pins, chaleur, vent et interminable ligne droite à peine interrompue à mi-chemin dans la traversée de Saint-Justin. À l'ombre des arcades de cette bastide, la pause bière s'impose. Les pinèdes bordant les longues lignes droites disparaissent à l'entrée de Mont-de-Marsan au profit de la grande distribution. Ici, à grand renfort de panneaux publicitaires, deux enseignes se livrent bataille pour gagner la guerre de la Chipolata. Dans cette entrée de ville semblable à toutes les autres, on devine à la lecture des panneaux la grandeur de cette civilisation de la consommation qu'on cherche à tout prix à nous imposer. Contraint à cheminer à pied dans un centre-ville chamboulé par des travaux de voirie, la chaleur suffocante m'assaille. Rien d'étonnant, le logo lumineux d'une pharmacie affiche 35 degrés. J'appelle ma cousine qui réside à une dizaine de kilomètres de là. Pas de problème, elle m'attend. Dès que je pose pied à Omoko, je dégouline de sueur. Je bois d'un trait un premier rafraîchissement, puis un deuxième. Échange quelques nouvelles de la famille avec Marie-Hélène et déjà je me précipite vers sa douche. L'arrêt non programmé mais revigorant et de courte durée. La propreté même éphémère donne des ailes. Requinqué, je suis d'attaque pour affronter les bosses de la Chalosse après avoir franchi la Dour et grimpé la côte de Saint-Sever. Une heure et demie d'un parcours de montagnes russes me conduisent à Pomarez. Par crainte de trouver en haut de la côte un village désert, je pointe en photographiant mon désert devant le panneau du village. Précaution inutile, car même en cette soirée du dimanche, un restaurant est ouvert. Servi rapidement, comme je l'ai demandé, je ne tarde pas à demander l'addition au patron du restaurant L'Aficion, qui se révèle être un bon choix pour un aficionado du vélo. À bas passé, c'en est fini des vallonnements de la Chalosse. Je dégringole vers le cave de Pau et arrive à l'abattu à la nuit tombante. Pour rejoindre Peyrorade, je dois cheminer une dizaine de kilomètres avec cette légère angoisse qui m'étreint chaque fois que je dois rouler entre chien et loup sur une route un peu plus fréquentée que les autres. La ramure des platanes qui l'abordent ajoute à la pénombre et accroît encore plus ce sentiment d'insécurité. De l'autre côté du Gave, à partir de Hastingues, je chemine sur la route plate et tranquille de la vallée de la Doure, bordée par des vergers de kiwis. De loin en loin, le ronronnement des pompes alimentant les systèmes d'irrigation vient à peine troubler le silence. La nuit, maintenant bien là, me prive d'un paysage que je devine beau et paisible. Je traverse sans trop d'hésitation Bayonne et Anglais. Un court passage dans la nuit noire et c'est Bidart, lieu d'un ultime pointage postal. Il est presque 1 h du matin. Sur la place du village, des jeunes attablés en terrasse dans un bar encore ouvert discutent. Ils m'indiquent le bureau de poste voisin. Certains semblent s'interroger sur les raisons d'une correspondance aussi tardive. Est-ce un contribuable en retard pour l'envoi de la déclaration ou un illuminé? L'accoutrement avec le gilet rétro-réfléchissant, la lampe frontale et le feu arrière clignotant à l'arrière du casque me dispensent de leur donner une réponse. Le délai n'étant plus un souci, j'en profite pour musarder un peu et admirer les façades illuminées des bâtiments et de la mairie qui se reflètent dans l'eau noire du port de Saint-Jean-de-Luz. Pour éteindre les lumières de la ville, je poursuis un peu au-delà du long virage sur les hauteurs de Sokoa. Je m'enfonce un peu plus dans la nuit où scintillent par endroits les contours de la côte. Au loin, c'est déjà l'Espagne, avec le phare d'Irun jetant sur l'Atlantique ses éclats intermittents. Je roule de plus en plus lentement pour faire taire le bruit de roulement des pneus. L'odeur d'iode m'indique la proximité de l'océan en contrebas des falaises. Je m'arrête, bien décidé à profiter des derniers instants de ce périple solitaire. Pour mieux mettre en éveil tous les sens, j'éteins l'éclairage. Les yeux peu à peu acclimatés à l'obscurité finissent par distinguer quelques lumières posées au loin sur la mer. J'entends maintenant distinctement le ressac des vagues venant se briser sur les rochers. Dans le ciel vaporeux qui suit une journée caniculaire, seules les étoiles les plus brillantes parviennent à percer. Je me délecte de l'instant. Lorsque j'arrive au commissariat, à Hendaye, le chef de poste se montre cordial. En me remettant le carnet, cette fois tamponné, le policier, un brin paternel, me félicite et me recommande de prendre un vrai repos. À entendre son accent, il ne me semble pas que l'aimable personnage soit basque. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il est alsacien. Sois rassurée, Jocelyne, me voilà réconciliée avec la maréchaussée.